Les Clairvoyants est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 54e épisode des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Les Clairvoyants, 54e épisode, votre rendez-vous mensuel avec toute l'actu autour du MCU, le Marvel Cinematic Universe, un podcast que je présente et que je prépare aussi avec mes acolytes Fox et Archéon. Salut les gars.
Salut, bonjour et bonne année.
Et bonne année, c'est vrai, c'est la première fois qu'on se parle depuis le début de l'année 2019. Alors un début d'année 2019 qui est un petit peu mou en termes d'actu, hein. Vous allez le voir, il n'y a pas grand chose. On a un trailer dont on pourra vous reparler tout à l'heure, c'est bien évidemment celui de Spider-Man Far From Home qu'on va dépiauter tout à l'heure et analyser. Pour le reste, l'actu est un peu calme et on se doute que ça va encore être comme ça à mon avis jusqu'à Endgame. Je pense que Marvel garde tout ce qu'il a sous le coude bien au secret en attendant la sortie d'Endgame que tout le monde attend et qui sortira donc fin avril. Un petit rappel, Fox, en vitesse de ce dont on parle dans le podcast.
En dehors des news, on a une section Avengers c'est pas l'heure où on fait une récap, où on fait du theory crafting parfois foireux et des spéculations. On a nos pauses musicales, Jarvis Drop My Needle qui nous permettent de passer un petit peu de musique issue de différentes séries et films du MCU. Et puis on a aussi le gros morceau, I Am Science, avec la voix du MODOK, où on parle chaque mois d'un personnage, d'un arc, d'une partie d'une série ou d'une organisation qu'on retrouve dans les comics et évidemment dans le MCU pour pouvoir vous éclairer sur ce que vous allez voir au cinéma.
Et ce mois-ci, tu es tout fou parce qu'on va pouvoir parler d'un de tes personnages, celui que t'attendais depuis très longtemps, qui ne sera pas dans le MCU, mais on a décidé d'en parler quand même.
I Am MODOK!
Voilà, on va parler de MODOK, on vous l'avait promis, hein, comme il y avait un petit peu de moule, on s'est dit bon, on va en profiter pour le caler, ça sera l'occasion de rigoler un bon coup avec l'ami MODOK. Et puis on aura aussi bien évidemment notre rubrique courrier, on fera un petit débat tout à l'heure histoire de faire un petit peu le point sur le bordel des licences entre Sony et Marvel Studios, puisque visiblement il y a encore des gens qui ont du mal à faire la différence entre les deux, donc on reparlera tout ça tout à l'heure. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les news et notre section True Believers.
I wouldn't say I'm a true believer.
True Believers, notre section de news en rapport direct avec le MCU, une actu un peu calme en ce moment, et comme je le disais en introduction de ce podcast, ça risque d'être encore le cas jusqu'à la sortie d'Endgame fin avril. Je pense que Marvel va garder un max de trucs au secret. On va néanmoins faire un petit peu le point très vite sur les licences Fox, puisque on sait que Disney rachète la Fox, c'est en cours, c'est bientôt finalisé. On a des news du côté de Kevin Feige, qui aurait donc déclaré lors d'une interview que on pourrait éventuellement commencer à lui donner le feu vert pour développer des licences Fox, enfin donc les licences X-Men, Fantastic Four, tout ce qui appartient pour le moment à la Fox chez Marvel Studios, au début de l'année 2019, ce qui veut dire que a priori donc on n'aurait pas de résultats concrets avant au moins 2 ans, le temps que tout ça parte en pré-production. Pas d'urgence, et en tout cas tous les gens qui attendaient des X-Men et des Fantastic Four dans Endgame, je pense qu'ils risquent d'être un petit peu déçus. Du côté de Captain Marvel, alors on sait plus trop à qui se fier, hein, puisque
c'est fou.
fou. Quoi.
Voilà. C'est bordel. Donc a priori, Jud Law finalement interprète très bien Marvel, donc M-A-R-V-E-L, enfin V2L. Alors on avait eu d'abord annoncé que c'était son rôle, puis après on avait dit non, c'est pas ça. En fait, il interprète Yon Rogue. Puis finalement, maintenant, on revient sur Marvel. Donc on sait pas trop en fait. Alors ce que j'avais envie de dire, c'est que ce que j'ai noté dans la conduite, c'est que pour moi, ça pue un peu le Reddering, ou en tout cas la possibilité de ce que Marvel a souvent fait déjà avec ses bad guys, c'est-à-dire une espèce de mix entre les deux personnages, donc il pourrait être à la fois Marvel et aussi avoir le côté un peu Yon Rogue. Ça peut fonctionner, on les a déjà vus faire ce genre de manipulation dans les films, enfin je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi ça me paraît être une probabilité.
Moi ça m'emmerde.
C'est vrai, carrément. Alors moi c'est direct, voilà, c'est tranché, c'est posé sur la table. Moi ça
me fait chier. Marvel, c'est pas un Marvel, c'est pas un bad guy.
Non, mais pourquoi pas en faire un bad guy justement, parce qu'on parle d'adaptation, donc autant être surpris, tu vois.
Mais j'ai trop de respect pour le premier Captain Marvel et je sais pas, c'est ça. Faire un gentil et un méchant, ça me va pas, quoi. Faire un méchant et un gentil, bizarrement, des fois, ça coince, et des fois, ça passe très bien. On peut penser à Loki, par exemple, qui retourne souvent sa veste.
Ouais, mais qui pour le coup, dans les comics, avait aussi cette variante-là aussi, hein.
Ouais, il est méchant, quand même, hein. Il est beaucoup plus méchant dans les comics. Et Marvel, par contre, enfin, cloner Marvel et Yon Rogue, qui se détestent et qui sont les pires ennemis, c'est compliqué, quoi. Enfin, ça m'emmerde un peu. J'aurais aimé avoir un vrai Marvel.
T'en penses quoi, toi, Thomas?
Je vais faire entre les deux et je vais dire, s'il faut, c'est pour jouer sur le fait que ce soit guerre Chris Krull. Et on dit que c'est un méchant, mais peut-être qu'il y aura plutôt une dualité, pas forcément méchant-méchant ou gentil-gentil, je sais pas comment l'expliquer, mais
Je vois ce que tu veux dire.
Un mix entre les deux, quoi.
C'est quelqu'un qui serait doté de bonnes intentions, en tout cas d'intentions qui sont raccord avec ce en quoi il croit, mais qui du coup serait un antagoniste plus qu'un bad guy, en fait.
Ouais, voilà, un peu, mais qui a des bonnes idées, mais qui est un peu extrémiste, quoi.
Alors, on a eu des news aussi du côté du scénario, du plot, comme on dit. Donc, a priori, le film démarrerait avec Captain Marvel déjà, donc, dans l'espace, déjà avec ses super pouvoir, est déjà en train de se battre du côté des Kree dans la guerre qui oppose les Kree aux Skrull. Elle aurait apparemment aucun souvenir de son côté, de son passé humain et du fait d'avoir été donc enrôlée un peu de force dans l'armée Kree. A priori, elle kifferait même d'être une Kree. Et puis apparemment, donc au début du film, Captain Marvel et la Star Force seraient envoyés sur une planète alien pour combattre les Skrull. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle va être capturée par les Skrull et qu'on reviendrait sur ce qu'on a vu dans le trailer en fait, hein, donc le moment où on a ce Skrull devant cette espèce de machine qu'on avait d'abord cru être le psychomagnétron et qui serait plutôt a priori une machine pour lui extraire ses souvenirs et qui déclencherait donc la résurgence de ses souvenirs terrestres et qui l'amènerait donc a priori à se rendre sur Terre. Donc voilà, ça c'est les infos qu'on a eu sur le plot. Bon, rien de vraiment surprenant, hein. Enfin en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas si vous, il y a des trucs qui vous ont étonné, mais c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu, hein.
Mm-hmm. Oui, grosso merdo, ouais.
C'est ça, ouais.
À part la bataille Skrull au début.
Ouais, voilà. Donc l'agencement du film en lui-même, ça, effectivement, on n'était pas tout à fait dessus, mais voilà. Petite info qui m'a surpris, moi, personnellement. A priori, donc, le Tesseract serait central à l'intrigue. Ce serait, a priori, le MacGuffin du film, donc l'objet qu'il poursuivrait et qu'il essaierait de récupérer. Donc, pourquoi pas, si ça peut faire le lien d'une manière organique avec le reste du MCU. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis, c'est vrai que le Tesseract, on ne sait pas trop à ce moment-là où il est, hein, puisque il était au fond de l'eau à la fin de Captain America et puis il a été récupéré par le Shield et Fury en particulier à un moment. Bon, et ça pourrait être dans Captain Marvel du coup, donc pourquoi pas. Moi en tout cas ça me paraît pas complètement illogique.
Le projet Pegasus derrière en plus.
Voilà, tout à fait. Donc ça serait parfaitement raccord, donc c'est surprenant parce qu'on s'y attendait pas, mais en même temps quand on réfléchit deux secondes, bah c'est plutôt logique. Dernière info sur Captain Marvel, puisque le film pour le moment surpasse donc Civil War en prévente, ce qui est plutôt pas mal pour un film que tout le monde disait que ça allait être le premier flop de Marvel, mais bon, c'est pas la première fois qu'on dit ça.
On attend toujours,
effectivement. On passe du côté d'Avengers Endgame. Mon cher Fox, on a des nouvelles sur la durée du film.
Oui, apparemment, il ferait autour de 3 heures, ce qui m'enchante.
Mais pareil.
Pour le coup, moi,
je suis content.
C'est vrai?
Ouais, je suis pas fan de films trop longs, en fait. C'est ma limite, on va dire.
Ce que les frères Rousseau ont l'air de dire, c'est qu'il y a vraiment trop de trucs à mettre dans le film et que là, pour le coup, ils sont obligés de faire un truc un poil plus long. Après, ça, on est encore à quoi? 3 mois de la sortie, maintenant un peu plus de 3 mois de la sortie. Ça peut encore changer, hein. Ils sont encore sur le banc de montage en train de finaliser des trucs. On peut encore couper de ci, de là des trucs. Moi, je suis pas, 3 heures, ça va. Je veux dire, quand je vois à quelle vitesse les 2h30, 2h40 même du premier film, d'Infinity War sont passés, je me dis que finalement 20 minutes de plus, si c'est pour avoir vraiment, un truc vrai, consistant qui clôt les 10 ans du Marvel Cinematic Universe, je pense que ça devrait aller. Et puis après, on va pas non plus mentir, on binge des séries de 13, 14 heures. on peut c'est bien ça. Se faire un film de 3 heures quoi.
Non, mais après je préfère un film de 3 heures avec bien monté et toutes les infos.
Oui, pas du Snyder, quoi.
De 2h30, voilà, un cut de 2h30 où ils ont les scènes. Alors, c'est en pas... mode tacle gratos.
Ah, bah écoute,
c'est
pas loin,
ouais. Ah, mais j'allais parler d'Aquaman, tu sais, donc.
Disons que c'est pas Batman versus Superman version longue, quoi.
Ah,
c'est
un... non, t'as pas le droit, non, lui, il est dans sa caisse.
Une autre info super intéressante, parce que c'est la première fois, concernant les trailers et les spots TV, donc a priori, alors je crois que c'est Feige, mais je vais pas mettre ma main coupée parce que je suis pas sûr à 100%, mais a priori, c'est lui qui aurait expliqué que donc, tous les trailers et spots TV qu'on verra sur Endgame ne montreront rien d'autre que des séquences tirées des 15 premières minutes du film. De là à penser qu'il va se passer un truc assez costaud dans les 15 premières minutes du film ou à l'issue des 15 premières minutes du film pour que bah, il décide de pas montrer ce qui se passera à la fin. On rappelle quand même que dans le trailer d'Infinity War, on voyait carrément des extraits de la baston finale sur Titan. Donc là, c'est une décision assez intéressante, je trouve, de ne montrer finalement que les 15 premières minutes du film, surtout si c'est un film de 3 heures. On se doute bien que dans les 15 premières minutes, il doit pas se passer énormément de trucs quand même.
Ça veut dire que ce qu'on a vu d'Endgame dans les teasers...
C'est le tout début du film, en gros.
C'est le tout début du film, avec Scott Lang devant la grille et tout, c'est le début du film.
Tout à fait. Donc,
ah non, les 5 premières minutes du film, c'est la première minute du setup, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, tout à fait, moi ça me semble logique aussi. Et puis, bah voilà, quelque part, les gens arrêtent pas de se plaindre que les trailers spoilent les films. Là, pour le coup, on peut juste fermer sa gueule. On aura que les 15 premières minutes, on risque pas de se faire spoiler grand chose. Puisqu'on parle de trailer, on enchaîne avec Spider-Man Far From Home. Le trailer est sorti mercredi. On a bien évidemment eu l'occasion de le voir et de le revoir, mais on en reparlera tout à l'heure dans la série Theory Crafting. On découpera un peu tout ce qu'on a pu y découvrir, et notamment notre ami Mysterio. Donc, bah, on va pas en parler tout de suite. On garde ça pour tout à l'heure. Guardians of the Galaxy Volume 3. Quelques news en fait, puisqu'apparemment Marvel Studios serait en négociation avec Adam McKay pour reprendre le flambeau donc de réalisateur à la place de James Gunn. Alors Adam McKay, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est le monsieur qui avait fait Anchorman, qui était un film excellent, enfin en ce qui me concerne en tout cas, j'avais trouvé que c'était une excellente comédie, et qui a aussi bossé sur Ant-Man et un peu aussi sur Ant-Man and the Wasp, mais un peu moins. Donc c'est un monsieur qui a fait des trucs très très bien comme The Big Short ou encore comment s'appelait ce film avec Samuel L. Jackson et The Rock, The Other Guys, voilà, qui est fantastique. Donc c'est un monsieur qui a vraiment un sens de la réalisation, qui a une caméra très nerveuse, qui sait filmer des scènes d'action et qui en plus est très très drôle. Donc je pense que c'est la bonne alchimie pour Guardians 3. On sait qu'ils avaient déjà essayé de le faire bosser sur un projet pour Marvel, je me souviens plus lequel. Je me demande si c'était pas un des Ant-Man justement. Mais c'est ça, c'était le premier Ant-Man. Ils avaient déjà approché Adam McKay à l'époque, qui avait refusé. Qui avait décliné en tout cas. Donc ça serait intéressant de le voir reprendre le flambeau de James Gunn, parce que c'est à peu près le même genre de, c'est un même genre d'humour, et puis surtout c'est un mec qui sait tenir une caméra, donc ça c'est plutôt important aussi. Je sais pas ce que vous
parce
en pensez, vous.
Parce que je me demande en fait surtout, c'est est-ce qu'il va prendre Paul Rudd avec lui, vu qu'il bosse pas mal ensemble, si je dis pas de conneries.
Ah ben bah, clairement, puisque Paul Rudd l'a ramené en fait sur Ant-Man le premier pour justement l'aider à réécrire un peu le scénario d'Edgar Wright.
Du coup, est-ce qu'il le récupérait pas de son côté pour faire un peu de script doctor sur
possible.
Guardians 3, ça pourrait être cool. Moi, j'aime bien son humour à Paul Rudd, donc je suis preneur.
Tout à fait, ça peut être cool. Fox, t'en penses quoi, toi, Adam McKay, sur Guardians 3, cette branche?
C'est un très bon réalisateur, il fait du bon taf. Après, je sais qu'il connaît plutôt pas mal Juan Pistolero, donc je serais pas étonné qu'il ait des conseils et que.
Oui, bah bon, voilà. Après,
on retrouve une patte de Gunn à l'intérieur et que malgré tout, il y ait peut-être un peu d'influence dessus avec Paul Rudd au milieu.
Clairement,
pour ça, moi,
ça peut rester une manière informelle d'investir James Gunn dans le process, en fait, ce qui me paraît pas être débile. Bref, on verra si ça se confirme. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment bien plaisir. On avait pensé à un moment à Taika Waititi, qui aurait pu aussi, effectivement, reprendre le flambeau, même si, attention, Taika Waititi, il faut pas oublier c'est pas lui qui a écrit Thor Ragnarok, hein. Il l'a juste réalisé. Bon, après, il a probablement eu son influence sur le scénario aussi. Mais en revanche, voilà, Adam McKay, moi, ça me plaît bien. Donc, pourquoi pas? Et puis, en plus, bah, il faut pas oublier qu'il partirait sur un scénario de James Gunn, puisqu'ils ont officiellement déclaré qu'ils garderaient le scénario de James Gunn, probablement adapté un tout petit peu, mais ce serait le travail de James Gunn qui serait utilisé pour ce volume 3. Ouais, tout à fait. On passe du côté des séries télé avec Runaways, la saison 2 donc est sortie sur Hulu. Vous l'avez pas vu, vous n'avez pas eu envie de vous sacrifier, et vous avez eu bien raison.
Voilà. Non, c'était pas ma priorité. Apparemment, j'ai bien fait.
Bah, disons que.
Formulé comme ça, plutôt.
Alors, je vais la faire douce et gentille. Si vous n'avez pas aimé la saison 1, il y a peu de chances que vous aimiez la saison 2, même aucune chance en fait. En revanche, si vous avez bien aimé la saison 1, eh ben vous allez apprécier probablement la saison 2. Moi, je suis pas rentré dedans, mais Voilà, je suis biaisé, je suis un fan fini des comics, donc moi tout ce qui touche à l'intégrité des comics me hérisse le poil, et là en l'occurrence Runaways se permet des réécritures qui à mon sens sont pas très opportunes. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que vraiment c'est dommage, et j'ai l'impression qu'ils passent vraiment complètement à côté de leur sujet. C'était déjà le cas dans la première saison, et le problème en plus de la deuxième saison, et je m'arrêterai là pour la critique minute, c'est que on passe la première moitié de la saison à résoudre les événements de la première saison, et ensuite on se fait un peu chier sur la deuxième moitié où il se passe pas grand chose. Y a des persos qu'on aimait bien dans les comics qui sont complètement sous-utilisés. Je pense notamment au Skrull qui n'est pas un Skrull. Je pense notamment au vampire qui n'est pas un vampire. Enfin bon, on passe complètement à côté du truc et je sais pas, moi ça m'a vraiment pas. Ça a été un peu une souffrance de mettre ça jusqu'à la fin, je dois bien le reconnaître. Maintenant, je vous dis, si vous avez kiffé la première saison, c'est probablement du même acabit, donc ce sera votre cam. À mon avis, en tout cas, moi c'était pas vraiment. J'ai pas vraiment pris mon pied. En parlant de prendre son pied, et j'espère que ce sera le cas, The Punisher saison 2, bah elle sort aujourd'hui sur Netflix, puisqu'on est vendredi, hein.
Oui, oui. On est vendredi.
Voilà, donc on en reparlera le mois prochain quand on l'aura vu. On a de bons espoirs puisque c'est le même showrunner, donc on imagine que il va réussir le même coup de force que dans la première saison. Enfin, en tout cas, moi j'avais vraiment bien aimé la première saison. C'est pour le coup très très décorrélé du Marvel Cinematic Universe. C'est sans doute la série télé la plus déconnectée du Marvel Cinematic Universe, non seulement d'un point de vue narratif, mais aussi d'un point de vue ton, et même des autres séries Netflix, hein, finalement, même s'il y a le personnage de Karen qui apparaissait, c'est quand même assez détaché finalement du reste du MCU Netflix. Donc ça sera probablement la dernière saison aussi, hein, vu les annulations en chaîne du côté de Netflix Marvel. Vous l'attendez, vous allez la binger ce week-end, ou vous êtes bof?
Moi, je peux pas la binger ce week-end parce que je dois partir dimanche pour Paris, donc j'ai du train. Par contre, je vais charger ma surface d'épisodes et je vais binger. Non, mais je vais binger dans ma petite chambre d'hôtel le soir. On allait me coucher, j'en materai un et je materai le reste au retour. Mais je pense que j'aurai fini. Oui, je vais la finir très vite parce que
toi,
j'ai adoré la première. Moi, donc,
ça fait un petit moment que j'ai pas bingé de série, donc je sais pas si je vais le faire. Après, si j'accroche, oui, je peux la regarder assez vite, ouais.
Ok, bon, de toute façon on l'aura maté d'ici le mois prochain, je pense on pourra en reparler en long et en large, mais donc c'était juste pour vous signaler que c'était dispo depuis aujourd'hui sur Netflix. Agents of S.H.I.E.L.D., on a quelques news, pas grand chose. Pourquoi tu ris? Tu crois...
J'attends que non. Tu dises une méchanceté.
Mais je vais pas dire de méchanceté, non, pour une fois. Non, casting de Anthony Michael Hall pour la saison 6, on sait pas encore dans quel rôle. Alors Anthony Michael Hall, pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux de la vieille, c'est un monsieur qui avait beaucoup tourné dans les films de John Hughes à l'époque où il était encore adolescent, pas John Hughes, donc, mais Anthony Michael Hall, voilà, qui avait joué dans Weird Science notamment. Et c'est un monsieur qui est revenu en fait, et Dead Zone tout à fait, c'est un monsieur qui est revenu un peu sur le devant de l'actualité via la télé en fait. On l'a retrouvé dans pas mal de séries télé. Alors c'est vrai qu'on le reconnaît pas vraiment par rapport au physique qu'on avait gardé, l'image du physique qu'on avait gardé de lui quand il était adolescent dans les films de John Hughes, mais effectivement il était revenu un peu dans l'actu via la télé, donc c'est pas vraiment étonnant qu'il finisse aussi dans Agents of S.H.I.E.L.D. pour la saison 6. On verra quel personnage il incarne. Et puis une dernière petite info sur Agents of S.H.I.E.L.D., a priori le tournage de la saison 7 commencerait en février, et ça personnellement ça me surprend un peu, parce qu'on... Alors... On s'était dit qu'ils avaient quand même eu du mal à raccrocher les wagons avec Infinity War, parce qu'a priori ils n'avaient pas vraiment été maintenus dans l'information et dans la boucle. Bon, c'est une supposition, on n'en sait rien. Mais du coup, le fait qu'ils tournent la saison 7 en février, alors soit ils prennent un gros risque en n'attendant pas les résultats d'Endgame, soit ils sont déjà au courant de ce qui va se passer, et dans ce cas-là, enfin je sais pas, c'est étrange quand même que pour une saison 6 qui va commencer, enfin qui va être diffusée a priori quoi, c'est mois de juin-juillet, en tout cas dans ces parages-là.
Ouais, normalement.
Qui commence à tourner la saison 7 déjà en février, c'est un peu étonnant. Enfin, je sais pas, moi ça m'a surpris. Peut-être qu'il y a que moi que ça surprend, j'en sais rien.
Non, je trouve que c'est assez tôt, vu que normalement ils commencent généralement les tournages après le début de la diffusion d'une série.
Oui, c'est ça, mais t'attends d'avoir fini, boucler ta diffusion avant de commencer le tournage de la suivante. Quoi. Ou alors il y a peut-être une urgence en termes de budget. Ou
ouais,
je sais
c'est
pas.
Ce que j'allais dire. Je me demande si c'est pas plus du.
Vite, on boucle, c'est la dernière.
On va dire, on va essayer de garder les assets qu'on a sur place, on va essayer d'éviter de tout remonter plus tard,
possible. Ouais, je pense que c'est plus un souci d'économie, effectivement. Bref, on verra ce que ça donne. Donc, on rappelle que la saison 6 est prévue pour l'été de 2019. Donc, on n'a pas de date exacte, mais quand on en aura une, on vous la communiquera. Et si on oublie, Fox nous le rappellera. et on va terminer cette section news avec une petite news rapide sur The Vision and Scarlet Witch. On vous rappelle que c'est cette série, enfin, mini-série qui est en cours de développement chez Marvel Studios pour le futur service de streaming de Disney qui s'appellera Disney+, puisqu'on a appris que la showrunner fameuse de la série serait Jack Schaeffer, qui est une des scénaristes qui a bossé donc sur Captain Marvel. Donc voilà, c'est une petite news qui rassure un peu sur le fait que Marvel Studios a l'air vraiment très investi dans ces mini-séries. Donc on rappelle que ce serait avec les acteurs, hein, avec Paul Bettany, Elizabeth Olsen, et que donc ça raconterait, alors on sait pas trop si ce serait pré-Infinity War ou post-Endgame, on n'a pas encore vraiment d'idées sur la localisation. J'ai lu une rumeur, tiens, à propos de la série, la mini-série Loki tout à l'heure, qui m'a intrigué, comme quoi ça se passerait bien après Infinity War et que ce serait les histoires de Loki ou Valhalla.
Ah, ça pourrait être cool, ça.
Ça pourrait être intéressant. Ouais.
Oh, le bordel.
Ça pourrait être intéressant. Enfin, ça reste une rumeur pour le moment, mais comme justement on se demandait, Loki, il est pas mort, et s'il est mort, pourquoi est-ce qu'il revient dans une série? Bah voilà. Alors, la réponse serait qu'en fait, il est effectivement mort, mais qu'il serait au Valhalla. Et donc, ça pourrait être assez intéressant, surtout si on rajoute la possibilité peut-être de retrouver Ella aussi, ça pourrait être assez rigolo. Bref, on en saura sans doute plus bientôt. Ouais, clairement, ça pourrait être les grosses retrouvailles. Donc voilà, ça clôture la section news et on va passer à notre série Theory Crafting et parler donc du trailer de Far From Home.
The Tesseract has shown me so much. It's more than knowledge, it's truth.
Avengers, c'est pas l'heure, notre section récap, théorie crafting et spéculation. On va s'occuper du trailer de Spider-Man Far From Home. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire quand il y a des nouveaux trailers, c'est qu'on les analyse image par image. On s'est rendu compte qu'en fait, pour le trailer de Far From Home, ça avait sans doute pas beaucoup d'intérêt, parce que le trailer ne démarre vraiment, en tout cas, ne fait la connexion avec le MCU que vers une minute cinq, quand on voit apparaître Fury. Avant ça, c'est plus une espèce de mise en situation de Peter Parker. Je fais des amalgames qui n'ont pas lieu d'être, de Peter Parker, donc, qui manifestement part en voyage scolaire en Europe. Du coup, premier élément intéressant, c'est effectivement, on le savait, hein, on savait que Nick Fury et Maria Hill étaient dans le film. On voit en tout cas Nick Fury à 1 minute 5, qui vient manifestement demander l'aide de Spider-Man. Je récapitule un petit peu tout ce qu'on sait côté rumeurs avant de passer à l'analyse pure du trailer. Donc, on sait que le Big Bad serait a priori donc mystérieux, incarné par Jake Gyllenhaal. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'a priori, ce serait pas un bad guy, en tout cas pas au début du film, qui serait plutôt un mec qui bosse avec le SHIELD et qui les aiderait justement à lutter contre ces êtres, ces créatures qu'on a vues, que certains ont pris pour Sandman ou Hydro-Man, et qui sont en fait les Elementals, qui donc est une race d'élémentaires qu'on retrouve dans l'univers Marvel Comics. La question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ça n'est pas un petit peu du pipeau? Et on va y revenir justement, parce que quand on connaît Mysterio, bah, on sait que ça colle pas trop avec le personnage, en fait. Donc, arrivé de Nick Fury vers 1 minute 5 dans le trailer, qui explique donc qu'il a manifestement besoin d'un coup de main de la part de Spider-Man. Alors, est-ce que vous avez déjà des choses à dire par rapport à ce qu'on voit pendant la première minute? Les petites interactions entre Happy et Tante May, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a des gens que ça a fait cringer. Moi, j'ai trouvé ça super rigolo. Et on le savait aussi qu'il allait y avoir un petit peu de romance entre les deux. Donc, je me dis pourquoi pas, finalement. Happy mérite bien.
Je vois pas ce qu'il y a de cringy, quoi.
Non, moi non plus. Thomas, ça avait l'air... Je t'entendais souffler là.
Non, c'est, je respire fort parce que je suis un peu malade.
Ok, d'accord.
Mais, non, juste ce que je voulais dire, c'est que lui, non, c'est sympa, mais il y a ce que je kiffe surtout, c'est que Tante May, elle a l'air super cool avec le fait que Peter soit Spider-Man.
Oui, tout à fait.
Et ça, j'aime beaucoup. Hein.
Ouais, j'aime bien le côté high five. Il y a une espèce de complicité qui était déjà présente dans le premier film, qui a l'air d'être décuplée depuis qu'elle sait qu'il est Spider-Man. Donc effectivement, ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, ça veut dire qu'ils vont pas faire traîner le truc en longueur. Elle a vu que c'était Spider-Man et voilà, c'est bon, maintenant on peut passer à la suite. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu le côté costume, identité secrète et tout, ça a jamais été très présent dans le MCU, et Spider-Man était potentiellement le seul perso avec lequel ça pourrait avoir lieu. Et je suis content qu'ils aient décidé de backer un peu le truc, même s'il reste secret par rapport à ses potes et notamment par rapport à Flash. On le verra tout à l'heure avec la fin du trailer qui m'avait fait beaucoup rire.
What up, Dick Wad.
Donc nouveau costume pour Peter Parker, qui n'est pas le costume d'Infinity War, qui est une espèce de version améliorée du costume qu'il avait dans Homecoming, hein, puisqu'il a un mélange donc noir et rouge, enfin bleu foncé et rouge, on va dire. C'est pas le même que dans Homecoming, hein, je dis pas de conneries. Hein,
non, c'est pas le même.
Il a les bras sont d'une couleur différente. Alors, il y a un autre costume qui arrive plus tard dans le trailer, on en reparlera quand on y arrivera. Le costume noir, qui est donc pas le costume de symbiote. Donc, a priori, il y a beaucoup de l'action qui se passe à Londres. En tout cas, dans le trailer, on a des explosions, du Spider-Man qui qu'ils veulent. On n'a rien de vraiment très cohérent, on va dire, jusqu'à ce qu'on voit apparaître donc les Elementals et la première apparition de Mysterio, qui visiblement a l'air d'être là en sauveur du monde. Je propose qu'on commence à spéculer un peu là-dessus. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Une des théories, un des trucs qui a surpris les gens, en tout cas, qui ont vu le trailer, c'est de se dire, tiens, mais c'est bizarre, Mysterio, il a l'air d'avoir des pouvoirs magiques à la Doctor Strange, alors que dans les comics, il n'est pas du tout magicien. Pas tout à fait, en fait, dans les comics. Si je me souviens bien, et là, vous m'arrêtez parce que je suis pas un expert du perso non plus, mais il me semble que c'est un spécialiste des effets spéciaux, et de la magie, mais dans le sens magie,
prestidigitation.
Prestidigitation, exactement. Moi, la théorie que j'ai, vous m'arrêtez après, si vous pensez que je me plante, ou éventuellement vous partagerez la vôtre, mais c'est que, à l'issue d'Infinity War, donc on a quand même probablement une période qui se passe sur Terre où ben une bonne partie des super-héros ont disparu. Hein. Tony Stark est considéré comme mort puisqu'il est dans l'espace. Il reste peut-être que Captain America, qui à mon avis en a pas profité pour redevenir public. Il reste pas grand monde en fait finalement, et je me demande si on n'aurait pas affaire à une espèce de Mysterio qui va se la raconter en mode Condorman, genre je suis un super-héros et avec mes effets spéciaux de cinéma ou autres, mes gadgets, je fais croire que j'ai des super-pouvoirs pour aider le monde. J'ai trouvé le moyen d'invoquer des élémentaires et du coup ben je vais les dompter et je vais faire croire aux gens qu'en fait je suis le sauveur du monde face à des élémentaires que finalement je pilote moi-même, ce qui expliquerait qu'il soit associé du SHIELD au début du film, comme on a cru le comprendre dans les rumeurs qui ont filtré, et qui expliquerait aussi la raison pour laquelle il a l'air effectivement de se battre contre les élémentaires et pas d'être allié dans la bande-annonce en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Est-ce que ça vous semble crédible ? Est-ce que vous avez un autre point de vue sur la question ?
Je fais juste une petite correction qui va dans le sens, il n'est pas spécialiste en effets spéciaux, il est acteur en fait.
Ah d'accord, ok.
Ouais. Donc du coup ça colle encore plus parce que il a le sens du show, il a un peu l'orgueil de montrer sa gueule un peu de manière le sauveur de la Terre quoi.
C'est ça ouais.
Et ça se retrouve un peu je trouve dans son costume, parce que là je l'ai en freeze frame sur le costume. Il a un truc un peu too much.
On dirait une version à mi-chemin entre le costume de Thanos et celui de Thor, mais effectivement un peu kitschouille,
une espèce de grande cape comme ça vachement comme disait shakespearienne un peu
et puis surtout il a une bouille aussi il est à fond dans son truc quoi quand tu regardes son visage et son expression au moment de sa première apparition où il sort d'un nuage de flotte ou de fumée ou de je ne sais pas quoi et qu'il arrive et qu'il dit franchement enfin qui dit bouge-toi, c'est trop fort pour toi ou un truc du style. Je me souviens pas de la réplique exacte, mais c'est un peu l'idée. Ça fait un peu quand même mec qui se la raconte, et ça me ferait marrer d'avoir un Mysterio qui est effectivement une espèce d'imposteur quoi. Fox, ton avis sur la question ?
Je suis assez d'accord sur le fait. Enfin, Mysterio, c'est un escroc, on le sait. Après, ça reste quand même normalement un super ennemi de Spider-Man qui a quand même commis pas mal de crimes et qui est relativement chiant à battre. Là où je suis plus étonné, c'est justement dans la manière dont sont amenés les Elementals. Si c'est lui qui les a invoqués, j'ai pensé qu'il avait été peut-être, qu'il était peut-être un étudiant en magie qui a été refoulé par The Ancient One et les moines qui travaillent avec Doctor Strange, qu'il a peut-être appris quelques bricoles et qui s'en sert pour justement faire passer pour un grand illusionniste et machin, ou un grand sauveur du monde.
Faut pas oublier que Doctor Strange a disparu à l'issue d'Infinity War, donc ça peut être une porte d'entrée aussi pour lui, en se disant je suis le nouveau sorcier suprême, se faire passer pour le digne successeur de Strange, ce qui expliquerait les pouvoirs verts qui ressemblent vraiment effectivement très fort à ce que fait Strange avec la Time Stone notamment. Moi ça me plaît bien cette idée de mec qui se fait en fait démasquer par Spider-Man, qui se rend compte qu'en fait c'est lui le problème et qui du coup pète un câble et devient un vrai bad guy pour la dernière partie du film, du coup où il utilise les Elementals pour
Comme plutôt le mandarin,
le verrais.
Je le verrais vraiment. Moi, je le vois plus en mandarin, en mode je suis un escroc, je me suis fait démasquer. Par contre, j'ai déclenché un truc qui est merdique, qu'il va falloir que Peter répare. Tu vois ?
Je préférais justement que les Elementals soient vraiment du vent et que ce soit vraiment lui le gros méchant.
Ouais, tout à fait. Moi, je préférerais aussi en fait que ce soit.
Ah non, je parlais pas des
bad.
Elementals. Je parlais quand tu regardes la scène du restaurant un peu avant où tu les vois en train de se faire shooter par des espèces de mafieux dans un resto. Je me dis que peut-être qu'il y aurait un problème avec des gens peu recommandables qui auraient essayé peut-être justement de profiter de cette situation, ou que lui aurait déclenché avec des commanditaires tout simplement, et que Spidey aurait à régler le problème. On regarde avec le vautour, c'était pas des super vilains, c'était des mecs qui récupéraient les technologies, qui étaient devenus des braqueurs, tu vois, c'est très terre à terre au final.
Je voulais revenir aussi là-dessus, c'est que J'aimerais aussi qu'il n'y ait pas de magie et qu'on reste dans le thème du vautour, en fait, d'un mec, un opportuniste, comme on disait en
tout thème, à fait, ouais.
Qui récupère des trucs qu'il n'est pas censé avoir, des technologies aliens ou X ou n'importe, et qu'il les modifie bah, pour faire des élémentaires gigantesques en FX ou n'importe. Mais j'ai pas envie d'avoir... J'aime bien que chaque film ait leur thème, on va dire, et j'ai pas envie de mélanger le thème de Strange avec le thème de Spidey pour avoir de la magie dans Spidey, en fait.
Ouais, tout à fait.
Ça bon, en fait, être une voie intéressante. Ouais.
On a deux options, hein. Soit, effectivement... soit on a l'option Mysterio se révèle finalement être un vrai bad guy doté soit de pouvoir, ou en tout cas d'une force de frappe suffisante que pour être le vrai ennemi de Spider-Man à la fin. Soit, effectivement, on a l'option hyper le contrôle des Elementals qui, pour le coup, seraient pas juste des illusions et qui pourraient, du coup, devenir le véritable antagoniste de Spider-Man dans le film. Ou alors, on a encore une troisième option qui est, il y a un autre bad guy, quelque part, derrière, qui va profiter de la situation, justement, du déséquilibre amené par Mysterio pour se manifester. Qui sait, peut-être un retour du Vulture, puisqu'on l'avait vu quand même dans la scène post-générique, une arrivée de Scorpion, ou bien encore un autre personnage. C'est tout à fait possible. Hein. Je voulais qu'on parle aussi du costume noir pour qu'on fasse un peu le point là-dessus. Alors, c'est le costume donc visiblement de la série Spider-Man noir, ou bien c'est encore un autre costume?
Non,
qui est vraiment expert pour en parler, parce que là j'avoue je sèche un peu. Je sais que c'est pas le symbiote, ça c'est sûr, que les gens qui attendent Venom vont être déçus, mais en revanche c'est Fox, ouais, t'avais l'air de savoir de quoi il s'agissait. Bah,
c'est, en fait ça fait partie Spider-Man noir, c'est une version alternative en fait qui vient du Noir Universe. Et c'est pas tout à fait le même Spider-Man. Le Spider-Man noir, il utilise un revolver, il a pas de tenue comme ça, c'est une arme, c'est pas une tenue en stretch en fait, c'est des vêtements avec un masque.
Ouais, mais
c'est
du coup
ça qu'il a ces yeux là, et c'est plus un détective qu'autre chose. Je pense que c'est une tenue que le Shield lui a filé pour faire de l'infiltration.
C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, quelle est la justification de la présence de ce costume dans le film? Effectivement, ouais, comme tu dis, ça pourrait être lié au Shield. C'est vrai qu'en fait, on le voit dans le trailer, hein, il hésite à prendre son costume avant de partir, et finalement, on sait pas s'il le prend ou pas.
Il le prend parce qu'il y a un autre trailer diffusé en France où tu vois que Tante May lui a mis dans la valise avec
d'accord.
un petit post-it. Tu avais oublié ça. Il se contrôlait à la douane, il ouvre la valoche,
exact.
Il y a un petit mot
ouais,
de Tante May.
J'avais
oublié
ce trailer-là.
T'as oublié ça, mon chéri. Ah, t'es là. Oh
parce que sinon, je me disais que s'il a pas de costume, ça peut être un costume de remplacement que lui file Nick Fury. Donc ça aurait pu être cette explication-là, effectivement.
En pure théorie crafting, je suis pas sûr que ce soit ça du tout. J'aimerais bien que la première mission de Fury, quand il rejoint à Venise, ça soit, on a un nouveau mec qui bosse pour nous, on commence un peu à douter. Est-ce que tu veux pas faire du sneaky, vérifier un peu si c'est pas un enfoiré?
Et du coup, on va te filer la tenue de
voilà,
stealth,
ouais.
Machin. Ouais, c'est pas con, ça se tient. Effectivement, d'envoyer Spider-Man pour enquêter sur Mysterio, parce qu'il y a un doute sur effectivement la légitimité de son personnage. D'autres choses à rajouter sur ce trailer? Je pense qu'on a fait le tour, hein, parce que finalement, on voit pas grand chose, en fait, hein. Enfin, on voit plein de choses, et le trailer fait 2 minutes 40, mais pas beaucoup d'éléments, en fait, de connexion avec le MCU. Comme je le disais, on a une minute où on s'intéresse exclusivement à Peter et à son voyage scolaire, et puis ça démarre vraiment à partir de l'arrivée de Fury à 1 minute 5. On voit un peu Mysterio, on voit un peu ses pouvoirs entre guillemets, on voit les Elementals, on voit Nick Fury, on voit Maria Hill, même si on la voit que de dos. Pas grand chose d'autre à spéculer pour le moment sur le reste de l'histoire.
Non, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Vaut mieux pas trop non plus en dévoiler, déjà qu'il le dévoile un peu tôt, on en parlera tout à l'heure.
Ouais,
là
ouais.
on a de quoi voir que Spidey va pas s'ennuyer en Europe, ça c'est clair.
On confirme, cela dit, avant de revenir sur l'épineuse question de la promotion de ce film avant Endgame, on précise quand même que donc visiblement de sources sûres, le film se passe après Endgame, hein, donc pas de post-homecoming, pré-Infinity War, non, ça se passe après
Endgame. Je mets des air guillemets, mais
des air guillemets,
il me semble
ouais.
que Feige l'a confirmé lui-même.
Alors, j'ai essayé de refaire des recherches, moi j'ai retrouvé une confirmation de Amy Pascal qui dit que le film commence quelques minutes après la fin d'Endgame, et apparemment Feige lui parle plus généralement du fait que dans ce film on va aussi s'attaquer aux conséquences de Infinity War et de Endgame, donc que manifestement ça se passe effectivement après. On sait que Marvel ces derniers temps a la fâcheuse tendance à balancer du Red Herring partout, à se foutre de notre gueule, mais je pense que sur ce sujet-là il s'agit plus d'un couac de communication, on y reviendra tout à l'heure, que d'une véritable volonté de nous embrouiller.
Lundi, on n'a pas parlé, c'est le passeport où il y a pas les années.
Oui, c'est ça. Sûrement
masqué en fait le temps qui se passe.
La timeline dans une game. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc voilà, moi j'ai rien à rajouter sur le trailer. On attend la suite. Le film sort donc au mois de juillet, début juillet normalement chez nous. Pour le moment, pas grand chose d'autre à rajouter, les gars. Enfin, je sais pas. Vous avez, j'ai oublié un truc, non?
Sabdi Kwan.
Oui, on n'a pas parlé. Ça, je trouvais ça fantastique.
La meilleure phrase de
Flash. Flash donc qui manifestement est tombé complètement amoureux de Spider-Man, mais qui déteste toujours Peter Parker. Je pense que le garçon va avoir un petit souci au moment où il va faire le rapprochement entre les deux. Il va lui faire une petite crise.
C'est, oh, je reste pas, mais attends, mais vous savez quoi, mais Spider-Man, mais attends, le mec, il est respectable, c'est le pote, tu vois, c'est le gentil Spider-Man du voisinage, il aide tout le monde et tout, et puis il voit Parker. Sabdi Kwan. Et tu lui fais, et ce que j'aime, c'est que t'as juste Tom qui balance juste le pouce, fait, hey, bitch. Non, voilà. C'est vraiment cool.
Spider-Man Far From Home. Si vous voulez venir en discuter avec nous, je rappelle qu'on a un thread sur Geekzone où on dépiote un peu tout ce qui se passe dans le MCU. Donc, si vous avez des spéculations, si vous avez des idées, des choses pour, avec lesquelles vous êtes pas d'accord dans ce qu'on a dit, bah, n'hésitez pas à venir en parler avec nous. On serait ravis d'en discuter avec vous sur le thread. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après le générique.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. Et pour changer un peu, j'ai décidé de me diriger vers la télé cette fois-ci. On va écouter une bande-son qui est passée un petit peu inaperçue. C'est dommage parce qu'en fait, contrairement à la série à laquelle moi j'ai pas trop accroché, Cloak and Dagger, donc, pour ne pas la citer, la bande-son est vraiment, vraiment chouette. Elle est signée d'un vétéran de la musique en plus, Mark Isham. On va s'écouter un extrait tout de suite avec Call to Action. Call to Action, à l'instant tiré de la bande-son de la série Cloak and Dagger, c'était Mark Isham.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, c'est la voix de notre Modoc adoré qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics, et ça tombe bien, cette fois-ci on va parler de lui, on va parler de Modoc. Ça fait quoi, 5 ans maintenant que Fox attend de pouvoir le placer dans le focus des clairvoyants. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de Modoc? Parce que j'ai vu la question popper sur Twitter tout à l'heure. Non, il n'arrive pas dans le MCU, en tout cas pas aux dernières nouvelles, même si on sait que les frangins Rousseau avaient envie de le faire apparaître dans un de leurs films, ils n'ont pas réussi, en tout cas pas encore. On n'est pas à l'abri d'une surprise, cela dit. Mais on vous en parle parce que on avait un petit creux dans l'actu, on n'avait pas grand chose d'autre à focusser, si je puis me permettre, pour le moment. Et comme on sait que c'est un perso qui est un peu un running gag dans le podcast, on s'est dit qu'on allait enfin expliquer aux gens qui n'en ont jamais entendu parler de quoi il s'agit. Et je dis bien de quoi, parce que voilà, c'est mon avis sur le personnage de Modoc, c'est une chose. Et Fox va nous en parler puisque donc c'est un grand fan du personnage. C'est un personnage donc qui n'est pas tout nouveau, hein, qui date des années 60, créé par Stanley et Jack Kirby, comme d'habitude, avec une première apparition donc dans Tales of Suspense 93, j'allais dire, on voit que je suis en Belgique depuis un petit moment, hein, 93, en septembre 67. Alors, parle-nous de Modoc. Qui est Modoc? D'où vient-il? Où va-t-il? Que fait-il? À quoi sert-il?
Alors, Modoc n'est pas une chose, pour commencer, car Modoc est un humain.
Oh,
Modoc est un homme de chair et
discute,
de sang.
Hein.
Ah non, c'est un véritable humain qui s'appelle George Tarleton, qui est né à Erie en Pennsylvanie, et qui était ingénieur et technicien scientifique de métier.
Mm-hmm.
Alors, tu vois, c'était un véritable humain.
C'était.
Par ambition, il va rejoindre AIM, donc Advanced ID Mechanics, donc
ouais.
Qui est un consortium scientifique criminel.
Qu'on a vu un peu dans Iron Man 3, en fait. Hein,
c'est vaguement. Ça, voilà. Ils en ont parlé rapidement dans Iron Man 3. Et donc, AIM veut construire un truc qui s'appelle le cube cosmique. Alors, c'est pire comme MacGuffin, hein, dans les comics, on le voit à toutes les sauces, mais c'est un cube qui est une sorte de machine, mais en même temps qui est une source d'énergie, qui est dotée de pouvoirs infinis et qui peut à peu près réaliser n'importe quoi. Donc AIM va commencer à construire cet objet-là avec l'aide de Tarleton, qui les a rejoints quelques temps auparavant.
Okay.
Après que le cube soit construit et mis en fonction, donc ils ont réussi à le construire, le scientifique suprême, qui est un des chefs d'AIM, va décider qu'il leur faut un moyen d'étudier les capacités et les pouvoirs du cube. Et donc il va lancer un programme, le Modoc Project, donc Mental Organism Design Only for Computing.
Donc c'est Modoc, M-O-D-O-C, hein, dans un premier temps.
C'est tout à fait. Le but, c'est de concevoir ou d'améliorer un organisme et de le rendre capable d'analyser les propriétés du cube et de faire progresser AIM au niveau technologique et scientifique, tout en gardant une personne, quelqu'un de loyal à la hiérarchie, donc des leaders suprêmes d'AIM. Donc il leur faut un membre d'AIM qui est loyal et qui est costaud, du moins mentalement résistant. George va se porter volontaire et après de très très nombreuses mutations génétiques qui vont expérimenter sur lui pendant très longtemps, sa tête va devenir énorme, bien trop pour pouvoir supporter son corps, et c'est là que ses collègues vont l'installer dans ce fauteuil qu'on connaît avec le petit réacteur dessous, ce fauteuil spécial, la Doomsday Chair. Et ainsi, il va naître Modoc avec un C, mais il va pas le garder très longtemps. Les pouvoirs des modifications génétiques qui lui ont donné, c'est-à-dire qu'il est doté d'une intelligence sans limite, de capacité mentale accrue, et lui, il va changer radicalement de son objectif premier qui était Only for Computing, en fait. Parce que les scientifiques d'AIM avaient pensé à tout ce qui avait attrait à l'intelligence, mais pas du tout à ce que les autres facettes de sa personnalité soient aussi surdéveloppées, notamment l'ambition.
Ouais, c'est un peu le conte classique du méchant augmenté qui finalement augmente aussi son côté un peu psychopathe, en fait.
Exactement, il est devenu complètement barge. En peu de temps, Modoc va donc se retourner contre ses supérieurs, il va prendre de force le contrôle d'AIM avant de se baptiser Modoc, Mental Organism Design Only for Killing.
Donc avec un K.
Parce qu'il va partir en rampage, totalement. À partir de ce moment-là, notre bon ami va commencer à diriger totalement les opérations d'AIM et à se frotter aux héros connus. La première rencontre avec un héros, ce sera avec Captain America. Parce qu'en fait, Sharon Carter, donc l'agent Agent 13, qui travaille en infiltration au sein d'un sous-marin d'AIM, voit sa couverture relevée. Donc, il découvre qu'elle est un agent qui n'est pas d'AIM. Captain America arrive pour la sauver et l'aider, parce qu'ils étaient en contact. Et c'est là que Modoc tombe face à face avec ces deux-là. Il y a une baston qui s'engage. Et c'est là qu'au moment où Captain America protège Sharon et essaye justement de vaincre Modoc, que les agents d'AIM se retournent contre leur nouveau leader et essayent de se barrer, parce qu'ils veulent pas rester avec lui. Et donc, ils essayent de s'enfuir et de se débarrasser de de lui en laissant Captain faire son taf. Sauf que MODOK va lancer l'autodestruction du navire, enfin du sous-marin. Tout le monde va s'en sortir in extremis en pensant que le gros monsieur, il s'est fait exploser avec le sous-marin, parce qu'il a tout, il a tout voulu faire sauter. Et donc du coup, tu te dis, bon, ça y est, il est mort, fin.
Oui, parce qu'on est toujours mort dans les comics de manière définitive. Hein.
C'est ça, mais tout le monde le croit mort. Sauf qu'on va le retrouver bien vivant un peu plus tard, toujours face au Captain America. Parce que MODOK va découvrir que Red Skull avait chopé le cube cosmique et qu'il s'en était servi pour échanger son esprit avec celui de Captain America. Donc il avait changé les corps.
Ok.
Donc il va les affronter, ça va être un bordel, ça va rentrer dans l'ordre encore une fois et il va redisparaître. Et c'est là qu'on va retrouver encore une fois le cube cosmique parce qu'il va enlever Namor pour essayer de piquer des trucs qui sont sur Atlantis. Et une autre personne intéressée par le cube va intervenir, un certain Docteur Doom. Il va libérer Namor, ils vont se retrouver tous les deux et ils vont unir leurs forces pour détruire le cube cosmique qui était en possession de MODOK. Et à partir de là, il reste un ennemi qui va lui mettre une grosse tannée parce qu'après ça, il va s'en prendre à un autre qui va essayer d'assassiner. Un certain Hulk, c'est-à-dire qu'il va manipuler une amie de Banner pour essayer de l'assassiner et puis il va s'en apercevoir avant, il va devenir très vert et il va lui mettre une grosse branlée.
Alors de leur côté, IM, ils vont essayer aussi de s'en débarrasser.
Et c'est eux qui vont réussir à faire le taf en fait.
D'accord.
Parce qu'après une longue période, après la baston de Hulk, il y a eu une très très longue période où en fait où il va reprendre la place de leader, il va se faire mettre dehors, il va revenir. Enfin c'est tout le temps ça. C'est du coup ça va être un bordel assez monstrueux et ça va faire stagner IM parce que tout le temps il veut aller tuer les autres, donc les super-héros, mais il fait plus avancer la technologie. Du coup, les autres leaders d'IM qui sont un peu partout, on en parlera tout à l'heure, il y a une personne justement qui est assez importante dans cet arc-là, ils vont demander à la Serpent Society, donc qui est un groupuscule de super vilains avec par exemple Viper, Black Mamba, King Cobra, un certain Bushmaster qu'on connaît, un certain Cottonmouth qu'on connaît aussi, ou encore Copperhead, ils vont leur demander d'éliminer MODOK. Et apparemment, ils vont réussir. Ils vont réussir parce qu'ils vont se retrouver en plein milieu d'un combat entre MODOK et Captain America. Captain America avait eu vent d'un attentat de la Serpent Society. Et en fait, c'était juste l'assassinat de MODOK. Et MODOK va rester mort, de corps.
Okay.
Le problème, c'est qu'il va revenir. Donc, la Serpent Society va ramener le corps à IM. Donc, il va reprendre le contrôle d'IM à un moment. Pourquoi ? Parce que ces cons vont le ressusciter à l'aide du cube cosmique.
Ah bah zut alors.
Ils voulaient s'en servir juste comme ordinateur humain, sauf qu'ils ont un peu poussé un peu les potards à 11, et du coup il s'est réveillé, et il a repris le contrôle d'IM.
Après il va se retrouver confronté à d'autres héros aussi, notamment Deadpool, Squirrel Girl, les Defenders aussi, mais la version comics du coup, Iron Man.
Iron Man c'est un récurrent, mais beaucoup plus aujourd'hui. Ces dernières années on l'a souvent vu en ennemi d'Iron Man dans les animés.
Ouais, dans les comics c'est surtout un ennemi de Captain America en fait, hein, si je dis pas de bêtises.
Au départ, Captain America au départ, après Iron Man un peu là, dans les années 80, mais pas énormément parce qu'il y avait beaucoup d'arcs d'Iron Man qui sont développés à ce moment-là. Et dans les années 90 on l'a vu souvent dans les animés en fait, où il est l'ennemi des technologies, comme c'est IM qui est souvent un principal ennemi d'Iron Man, on le retrouve assez souvent là-dedans.
Après, il va y avoir une espèce de retour en arrière pour MODOK, on va essayer de revenir à l'ami George, en fait.
Alors, c'est très récent, en fait, ça a quelques années, mais il a affronté le nouvel Hulk Amadeus Cho lors d'une guerre contre l'Intelligentsia. J'expliquerai ce qu'est l'Intelligentsia tout à l'heure, mais c'est un groupuscule de super vilains, super intelligents.
Okay.
Donc, il y a deux leaders à l'intérieur, il y a MODOK, il y a d'autres super vilains qui ont des grosses capacités intellectuelles. Et en fait, ils avaient utilisé un rayon dont le nom, c'est le Catersis, je sais plus quoi. Le nom est accouché dehors, mais ils ont utilisé un rayon qui était censé transférer les capacités d'un sujet à un autre. Sauf que Amadeus Cho a été touché par ce rayon, et lui, ça lui a développé des nouvelles capacités, dont une qui est celle de modifier la réalité sur à peu près 10 pieds, donc quelques mètres autour de lui.
D'accord, c'est très spécifique comme pouvoir.
C'est très spécifique. On rappelle, pour ceux qui connaissent pas les nouveaux runs de Hulk, Amadeus Cho, c'est un gamin qui est extrêmement intelligent, qui est vraiment génial, encore plus génial que Banner, et qui peut contrôler son intellect quand il est sous forme Hulk. Donc du coup, c'est doublement dangereux. Et du coup, Amadeus va découvrir qu'il a ces pouvoirs-là, il va s'approcher de MODOK, il va lui mettre une branlée, et il va activer ce champ de réalité autour de lui, et il va le retransformer en George Tarleton. Du coup, George Tarleton, c'est plus qu'un humain, ils vont l'enfermer dans la Gamma Base qui est dans la Death Valley aux États-Unis, où Tarleton subit désormais une très lourde thérapie, en fait, afin de supporter les traumatismes liés à sa transformation, parce qu'il est en vrac, hein. Et il a quasiment aucun souvenir, sauf qu'il a des flashs des crimes qu'il a commis en tant que MODOK, et à chaque fois qu'il a un flash, ça réveille des souvenirs de ses crimes.
Donc, il subit un plan à la Winter Soldier, en fait.
C'est ça, c'est à peu près ça. Mais maintenant, plus ça va, plus ça avance, en fait, plus il s'en rappelle. Et ça, c'est assez récent, ça a quelques années maintenant, mais MODOK n'existe pour l'instant plus sous forme de MODOK tel qu'on le connaît, vu qu'il est George Tarlton, il est redevenu humain, il est dans la prison de la Gamma Base et il suit une thérapie pour essayer de se sortir de toutes les bêtises qu'il a pu faire, en fait.
Alors, on s'en doute, hein, au vu de son histoire un peu particulière, que l'ami MODOK qui est pas vraiment quelqu'un de très stable. C'est un mec qui est particulièrement intelligent, comme tu l'as dit, mais aussi donc visiblement assez mégalo, obsessionnel, et puis surtout, c'est assez étonnant, il est apparemment incapable de prévoir en fait sur le long terme. Il vit dans l'instant présent, donc c'est vraiment c'est un gosse quoi en fait finalement.
Bah en fait, c'est une espèce de Donald Trump sur une chaise mécanique si tu veux. Il est incapable de prévoir sur le long terme parce qu'il a fréquemment des accès de rage.
Alors attends, juste je t'interromps par rapport à cette référence à Donald Trump, parce que j'ai vu passer donc des images, des artworks de Donald Trump en MODOK. Est-ce qu'on a vu ça dans Marvel ou bien est-ce que c'est vraiment un truc qui a été fait par des espèces d'artistes barrés en fait?
Ça a été fait par des artistes barrés.
Okay. Ça aurait été assez génial d'avoir un MODOK avec la tête de Trump dans les comics récents, ça m'aurait fait beaucoup rire.
Mais c'est le principe en fait, dit extrêmement intelligent, il est ultra mégalo, il a des obsessions débiles et il est incapable de prévoir sur le long terme. Pourquoi? Parce que dès qu'il se passe un truc, genre, imagine, il met au point une nouvelle technologie, machin, Captain America arrive, il va focusser sur Captain America, tout va partir en couille et il va se faire défoncer. Et il a que deux obsessions, en gros, hein. C'est les pouvoirs du cube cosmique, parce que ça fait partie plus ou moins de la programmation qu'il a eue quand il a été transformé en MODOK avec un C, qui était l'étude du cube cosmique, et les super-héros qui l'ont vaincu, parce qu'évidemment il est rancunier et il est mauvais perdant. Le principal souci de ces modifications génétiques-là, comme on le disait, c'est que tous ses pires instincts ont été décuplés en même temps que son intelligence, ce qui le rend totalement instable, déviant, cruel, et c'est pour ça qu'il voit pas à long terme, irascible, parce qu'il pète des câbles tout le temps.
Et puis il a aussi besoin de se prouver sans arrêt, quoi. Enfin, on sent que c'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui a un ego qui est finalement de la taille de sa tête, en fait.
Ah mais c'est ça, son ego s'est surdéveloppé, et ça c'est tous les mauvais côtés qu'avait George Tarlton en lui-même, parce que en tant qu'humain avant de devenir MODOK, c'était quelqu'un d'ambitieux qui voulait prouver son talent d'ingénieur et de scientifique par n'importe quel moyen. Donc il voulait prouver qu'il était le meilleur. C'est pour ça qu'il a rejoint IM. Le problème, c'est que sa transformation a laissé de côté son penchant pour la science et concentré tous ses efforts sur les moyens de contrôler les cubes cosmiques, parce qu'évidemment ils en ont fabriqué plusieurs, et surtout comment tuer ses ennemis, parce qu'il est extrêmement cruel.
Voilà, MODOK donc un personnage qu'on aimerait bien voir dans les films, parce que juste pour le challenge de savoir comment ils vont réussir à le représenter. Ils s'en étaient plutôt pas mal sortis avec Arnim Zola. Ils avaient fait quelque chose d'assez symbolique qui finalement fonctionnait plutôt pas mal, donc du coup il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec MODOK aussi. On verra, l'avenir nous le dira. En attendant, on va passer du côté des recommandations de lecture pour ceux qui veulent découvrir le personnage dans les comics. Alors comme t'es fan du perso, c'est toi qui t'en es occupé aussi, et on commence tout de suite avec le super villain team up MODOK 11. Et ça date de quand ça?
Ça c'est récent, hein. MODOK 11, c'est de 2009 à 2011, si je dis pas de bêtises.
Ok.
C'est par Fred Van Lente à l'écriture et Frances Portella à l'illustration. C'est un run totalement barré. Il faut s'accrocher, c'est-à-dire que MODOK assemble pour lui une équipe de super vilains, donc Armadillo, Living Laser, The Mandarin, donc le mandarin, hein, carrément, Mentalo, Monica Rappaccini, qui était la chef d'IM et qui avait voulu le faire assassiner, Nightshade, Puma, Rocket Racer, Spot et l'Ultra Adaptoid, qui est une création aussi d'IM. Les Adaptoids sont des créations d'IM.
Ouais, on en avait parlé quand on avait parlé de Vision à l'époque.
Voilà. Le but de cette coalition dirigée par notre grosse tête en chaise, c'est de voler l'Hypernova, qui est une étoile miniature à l'énergie infinie qui est cachée dans la dimension des Infinicides.
Ok.
Ce sont des MODOK évolués du futur que MODOK a découvert dans une faille quand il a réparé un cube cosmique qui était défaillant.
Ok.
Qui avait créé des failles dimensionnelles. Il est rentré là-dedans, il a découvert que dans le futur, il y avait un peuple, donc les Infinicides, qui étaient tous des MODOK.
Oh mon Dieu.
Et donc, il veut leur piquer l'hypernova, qui est une nova, mais qui est toute petite, okay, qui est minuscule, qui veulent voler parce que, ben, elle produit de l'énergie infinie et qu'elle peut être utilisée en armes. Enfin, il y a plein de trucs à faire.
Okay.
Le problème, c'est que tout part en cacahuète quand on va découvrir qu'il y a un traître dans le groupe. Quasiment dès le début, ils se doutent qu'il y a un traître. Mais en fait, il y en a un autre, il y en a un deuxième. Puis après, le casse se passe très très mal, mais genre très très mal. Et c'est totalement le bordel, parce que ça devient très vite du n'importe quoi, en mode « Ah mais toi, t'étais un espion. Mais toi, t'es qui du coup ? Ah non, mais moi, je suis là parce que je voulais piquer ça aussi. Ah mais pourquoi t'es là ? Ah mais t'es qui toi ?» Et c'est le bordel tout le temps. Et il y a une phase, parce que c'est en fait, c'est vraiment un run qui est rigolo, tu vois. C'est 5 issues, mais t'as un côté barré à la Deadpool, mais chez les méchants vraiment méchants. C'est-à-dire qu'il y a le mandarin qui craque à un moment, c'est ridicule. Il y a le fils du mandarin qui intervient. Il y a Rocket Racer qui a un crush sur un des personnages. Il a un crush sur Nightshade. Et en fait, la moitié des issues, il est là. Est-ce que tu penses que je peux l'inviter à sortir, en fait? Il va demander un conseil et les mecs le regardent en mode, mais tu veux mourir, en fait? On va tous crever avec tes conneries. Donc ça, c'est Supervillain Team-Up Modox 11. C'est donc très cool.
Un arc assez barré, manifestement, qui date, donc, j'ai vérifié, de 2007. Et puis ensuite, tu voulais nous recommander également Fall of the Hulks.
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'une partie de, c'est Fall of the Hulks et World War Hulks, parce que les deux se passent en partie en même temps.
D'accord.
Dire que le premier, le Hulk 610, ce qui commence World War Hulks, se passe en même temps que Fall of the Hulks, en fait.
D'accord.
Donc c'est des runs un peu comme Civil War qui sont en plusieurs issues sur plusieurs albums. Donc je vous ai mis les liens Comic Vine pour que vous puissiez rattraper les wagons, ce qui est un peu de tout. Donc c'est un peu long parce qu'on revient aux bases de Red Hulk. Donc Hulk Thaddeus Ross, hein, le bon général Thaddeus Ross. Dans Fall of the Hulk, on dit Hulks, pardon, parce qu'il y a plusieurs Hulks, on découvre que MODOK a contribué à créer Hulk et She-Hulk, donc She-Red Hulk, avec l'Intelligentsia, justement. C'est là qu'on va en apprendre beaucoup plus sur l'Intelligentsia.
Okay.
Et évidemment, ils ont créé ces deux-là, ça tourne mal. Et donc, ça crée une bataille énorme entre Red Hulk, Cosmic Hulk, d'autres Hulk et IM.
Il y a des Hulk partout, donc.
Oui, non, mais parce que c'est là que tu vas rire, mais tu vas comprendre que, en fait, ils ont eu la bonne idée de transformer d'autres héros en Hulk aussi.
D'accord.
Voilà, c'est pour ça que je veux pas trop spoiler parce qu'il y a des trucs qui sont assez longs, mais c'est quelque chose.
Mais c'était juste là, on donne juste envie aux gens de lire, on leur raconte pas forcément l'histoire non plus, donc.
Et après, on se retrouve sur World War Hulks, qui est la même chose, sachant que on retrouve Amadeus Cho évidemment, on retrouve Sakaar, le fils de Banner de World War Hulk, de Planet Hulk, le fils à son père, donc Sakaar, le gros Hulk vénère primal. On retrouve Red Hulk, on retrouve She-Red Hulk, et en fait, c'est Banner qui est privé de ses pouvoirs, qui est avec A-Bomb, qui est un autre super-héros, qui sont en train de faire des recherches et qui découvrent que Red She-Hulk est en fait Betty Ross, la femme de Bruce Banner.
Mon Dieu.
Qu'elle a été transformée en She-Red Hulk à cause de MODOK et de l'Intelligentsia. Et au moment où ils découvrent ça, tu as une demi-douzaine de Hulks en colère qui sont en train de foutre le bordel partout, notamment New York.
Okay.
Et c'est là que ça commence, la guerre des Hulks, avec Thaddeus Ross qui a été séparé de sa partie Red Hulk, comme Banner avait pu être séparé de sa partie Hulk, qui est présumé mort. Donc Hulk, et c'est tout le pire de Thaddeus Ross en une seule personne, mais en Hulk, donc c'est pire. C'est pire que tout.
Ça m'a l'air d'un bordel.
C'est fabuleux. C'est le bordel, mais c'est relativement bien organisé quand tu commences avec Fall of the Hulks. Mais du coup, MODOK, il a une place assez importante dedans parce que c'est à cause de lui qu'on a eu Hulk, She-Red Hulk et qu'on a eu pas mal de problèmes avec Hulk ces dernières années. Il est la cause de tout. C'est un super MacGuffin pour le coup.
Ok. Eh ben, écoute, on linkera donc ses recommandations de lecture dans le billet qui accompagne ce podcast. Voilà. J'espère que t'es content. T'as pu parler de MODOK. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire venir dans le MCU, mais ça, je suis pas convaincu que ce soit pour tout de suite.
Attends, la prochaine, il y aura Adam Warlock, le focus, il va durer 6 heures.
Allez, on passe à la suite, c'est l'heure de Marvel Insiders et notre petit débat après un petit jingle. He's a spy. He's the spy. His secrets have secrets. « Marvel Insider, c'est notre moment analyse, débat. On va profiter de la sortie du trailer de Far From Home pour remettre un petit peu d'ordre dans les franchises Marvel Studios et Sony, parce que c'est un petit peu le bordel, pour parler crûment. Ça m'a énervé, oui, parce que les gens n'ont toujours pas compris, en fait. Au bout d'un moment, si tu veux, on a beau leur expliquer, je dis que ça va finir par passer, donc on va en remettre une couche. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui m'énerve? Alors déjà, il y a un premier problème, en fait, c'est la sortie de ce trailer de Far From Home, qui est donc la suite des aventures de Spider-Man qu'on avait pu découvrir dans Homecoming. La sortie de ce trailer, donc, avant Endgame, avant Avengers 4, avant donc la résolution de ce qui s'est passé dans Infinity War. On rappelle que dans Infinity War, à la fin d'Infinity War, Peter Parker fait partie des héros qui sont dustés, qui disparaissent, qui sont supposés, entre guillemets, gros air guillemets, morts. Et donc, c'est un petit peu bizarre de découvrir aujourd'hui un trailer pour la suite d'un Spider-Man qu'on pense être, pour le moment, en tout cas dans l'état actuel du MCU, mort. Alors, comme je le disais tout à l'heure, personne n'est dupe. On sait très bien que dans les comics, personne n'est jamais vraiment mort. On sait très bien qu'ils avaient planifié des suites, notamment à Black Panther, Doctor Strange. On sait que tous ces films-là sont en développement actuellement, donc on sait que ces personnages vont revenir. Mais malgré tout, pour le grand public, moi j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment, et puis dans mon entourage aussi, de gens qui me disent « Mais attends, je comprends pas, Spider-Man, il est pas mort dans Infinity War? Comment ça se fait qu'on le voit déjà dans un trailer ?» Donc tout le monde pense que ça se passe avant Infinity War, que c'est la suite directe d'Homecoming avant ce qui se passe dans Infinity War, donc c'est un petit peu compliqué. On explique très très rapidement pourquoi c'est comme ça. La raison est très simple, c'est qu'en fait l'association entre Marvel Studios et Sony pour développer donc une nouvelle franchise Spider-Man, elle stipule qu'en fait c'est Sony qui a la gestion de tout ce qui est distribution et marketing, et qu'à la base en fait Marvel Studios, eux, ils auraient bien voulu sortir le film un petit peu plus tard. C'est Sony qui a vraiment mis la pression pour que ça sorte en juillet 2019, avec la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, qui est qu'un film qui sort en juillet 2019, t'es obligé de commencer à faire la promo en janvier, et donc forcément t'es obligé de commencer à balancer du trailer alors que t'as des trucs qui sont pas résolus encore. On s'imagine bien que même si tout ça a dû être validé par Marvel Studios d'une certaine manière, ça doit quand même un petit peu les faire chier. Moi, je trouve ça un peu dommage, du coup, pour le grand public, en tout cas, qui n'est pas forcément au courant des arcanes et du fait qu'il y a déjà des suites en développement, etc. Ça doit gâcher quand même un petit peu le plaisir. Et surtout, l'impact qu'a eu la mort, encore une fois, entre guillemets, entre gros et guillemets, de Peter Parker dans Infinity War. Donc ça, c'était la première chose que je voulais remettre à plat. C'était expliquer pourquoi on a un trailer aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont posé la question sur Twitter. Voilà la raison pour laquelle vous avez un trailer Spider-Man aujourd'hui avant la sortie d'Endgame, et c'est aussi la raison pour laquelle Marvel Studios n'a absolument pas communiqué de manière officielle sur quoi que ce soit, en tout cas pour la phase après Endgame. On ne sait absolument rien. Tout ce qu'on a, c'est des rumeurs, c'est des contacts, des sources, des machins qui ont dit que effectivement Scott Derrickson aurait signé pour Doctor Strange 2, que Ryan Coogler sera en train de bosser sur Black Panther 2, mais ça n'a pas du tout été confirmé par Marvel Studios, qui est pour le coup complètement raccord avec son plan de com, et qui dit nous, tant qu'on n'a pas vu Endgame, tant qu'on n'a pas diffusé Endgame, on parle pas de la suite. Là, Sony vient un peu jouer les troubles faits, ils sont un petit peu trop enthousiastes à mon goût. C'est un peu dommage, enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi ça ne gâchera pas le plaisir, et puis comme je le disais tout à l'heure, on sait très bien que Peter Parker va revenir, mais c'est quand même un petit peu dommage d'avoir cette espèce de couac bizarre de trailer qui tombe finalement un peu comme un cheveu dans la soupe, en fait.
C'est je trouve ça débile, en fait, parce qu'on est sur une période en plus où on a trois immenses films Marvel à venir.
Bah ouais.
On a Captain Marvel, on a Endgame et Spider-Man. Ils auraient pu ne serait-ce que décaler un petit peu, ils auraient pu attendre, et ça joue pas en leur faveur. Ils savent très bien que de toute façon le film, les gens iront le voir, les fans iront le voir. Mais là ça gâche complètement la partie communication. On attend, je pense qu'on l'aura le 3 et 4 février au Super Bowl, le trailer de Endgame, le vrai trailer de Endgame qu'on attend. Ils auraient pu attendre juste le trailer d'Endgame, ou alors juste le lancement de Captain Marvel, ou attendre que les trailers de Endgame soient sortis. Oui, là, c'est la fête est un peu gâchée pour moi. Ouais. C'est un peu idiot de vouloir à tout prix passer devant alors que c'est 10 ans de MCU, et que sans Marvel, Sony, il aurait fait un Spider-Man de merde, il faut quand même le dire. On a vu les trois derniers. Hein. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont cette volonté, et c'est pas la première fois, de balancer des trucs avant, en mode, regardez, on va passer devant vous.
Ils avaient déjà coupé l'herbe sous le pied de Marvel Studios au moment de la sortie d'Homecoming, puisque le big boss de Sony, dont j'ai oublié le nom, avait déclaré le jour de la sortie ou quelques jours après la sortie d'Homecoming, la suite, on a déjà une date et tout, c'est pour juillet 2019. Ce qui du coup avait fait dire à tout le monde, s'il y a une suite Spider-Man, ça veut dire qu'il va pas mourir dans Infinity War, donc ça foire un peu les enjeux en fait. Enfin, je sais pas. Je sais que personne n'est dupe encore une fois et que la suspension d'incrédulité fait que on sait très bien que on nous amène à croire que les personnages sont morts alors qu'on sait très bien que ce sera pas le cas, que les gardiens vont revenir, que tout le monde va revenir. Mais c'est pas très cohérent dans ta com en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Toi, ça t'a gêné, ça t'a fait un petit pincement quand même de voir ce trailer tout de suite. Est-ce que tu
t'en fous? Pas spécialement, non. Parce que alors c'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que. Je fais partie en fait des personnes qui suivent assez l'actualité pour savoir que ça forcément ça allait arriver. Là où ça me dérange par contre, c'est plus sur la partie gestion derrière, qui me faisait déjà à l'époque dire qu'avoir Spider-Man sans avoir les droits, c'était pas forcément une bonne idée. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment où t'as deux entités qui vont gérer une même propriété intellectuelle, il va forcément y avoir des couacs du genre quoi. Et là on y arrive, on est en plein dedans. Donc c'est un peu dommage.
Bah ça doit être frustrant pour Marvel Studios de pas pouvoir gérer la distribution et le marketing sur ce produit, parce que je pense qu'à la base ils se sont dit bon bah c'est pas trop grave, le marketing, la distribution s'en bat un peu les steaks. Nous ce qui compte c'est de pouvoir raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Mais au final bah là pour le coup je trouve que le move de Sony est pas très malin quoi. On sait qu'il y a des enjeux dans Infinity War et je peux comprendre que Sony pour le coup eux s'en foutent de savoir les enjeux de Infinity War, c'est pas leur film, c'est pas leur franchise. Mais en même temps, quand tu veux jouer dans la cour des grands avec Marvel Studios, bah tu fais un effort, quoi. Tu essaies de respecter un peu la chronologie des histoires que tu racontes et venir balancer ce trailer Spider-Man là en plein milieu de l'intervalle entre Infinity War et Endgame, je trouve ça vraiment pas très intelligent, quoi. Parce que de deux choses l'une, soit ça crée le trouble chez les gens qui du coup se disent mais attends ça se passe avant ou machin, on n'est pas très sûr. En plus ils ont été gommés les dates sur le passeport, donc ça crée encore plus le trouble. Nick Fury pareil, hein, il est supposé être mort à la fin d'Infinity War, ou alors ça se passe après, mais donc du coup ça veut dire qu'on sait déjà comment va se terminer Endgame. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment navrant en fait de la part de Sony d'avoir en plus voulu absolument marketer cette suite déjà maintenant, alors que même s'il avait marketé un mois avant la sortie, ça aurait cartonné. Je sais pas, je
vais taper sur Sony, mais ils ont une des licences Marvel qui niveau des fans vendra le plus, qui est quand même une grosse fan favorite. Ils ont eu un succès que moi personnellement je n'attendais pas avec Venom, qui a fait un fric monstrueux par rapport à l'étron que c'est, quoi.
Ouais, mais alors pour le coup je suis pas sûr que le 2 fasse autant, hein, parce que je pense qu'en fait il y a eu un effet produit d'appel, et puis en plus ils ont pas mal joué sur l'ambiguïté, ils ont pas voulu dire si Spider-Man était dedans ou pas, donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont allés le voir en se disant ah ça fait partie de l'univers Marvel, et en fait finalement bah pas du tout. Donc je pense que les thunes qu'ils ont engrangées sur le premier, qu'ils les mettent bien de côté au chaud, parce que je suis pas sûr qu'ils en fassent autant sur le 2 en fait. Mais
pardon, je t'ai interrompu. Sur tout ce qui marketing comme etc sur Venom, comme tu le disais, ils ont joué sur le fait que peut-être qu'il y a Spider-Man, peut-être que c'est le MCU. Amy Pascal qui a fait des niveau com, elle est ignoble quand même, faut le dire comme c'est.
Ah ben elle tire la couverture à elle quoi, enfin ouais. C'est de bonne guerre on va dire, mais c'est dommage quoi.
À côté ils ont Into the Spider-Verse qui dès que les premiers trailers sont arrivés, ça sentait le carton à 10 bornes, ça a été distribué de manière dégueulasse, ça a été vendu de manière dégueulasse.
Clairement. Ça ils y ont pas cru en fait, hein, c'est vraiment débile quoi.
Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir Into the Spider-Verse qui fait quoi? Je crois qu'au niveau monde, il a fait moins de 300 millions de dollars.
Putain.
Et Venom à côté, il est arrivé à 800 millions, 900 millions, un truc du genre.
Il a pas dépassé le milliard maintenant, Venom? Il me semble qu'ils étaient vraiment un chiffre complètement foufou, hein.
Dernière fois que j'ai regardé, c'était à 800 millions. Et moi, ça me paraissait juste aberrant par rapport à ce que c'est. Bon, c'est juste qu'ils ont une licence qui est vraiment fan favorite, qui vend. Et il a force en fait, et ils s'en foutent de ce qu'il y a autour, ils s'en foutent de comment c'est impliqué dans d'autres projets, ils forcent le truc. Bah typiquement le projet qu'ils ont de Morbius aussi avec Jared Leto, je sais pas où ça en est, apparemment ils veulent dire que ça va être fini en mai ou je sais pas quoi. Ça surfe sur la vague Spider-Man, ils savent que les gens veulent ça, et ils foncent dans le tas sans réfléchir, et c'est complètement débile.
Ouais. C'est dommage, et puis du coup ça crée la confusion, et j'en parlais avec Fox il y a quelques jours justement par rapport à Spider-Man Into the Spider-Verse, où les gens pensent que c'est un film Marvel en fait, et que du coup on se dit Marvel se met à faire de l'animation, mais du coup est-ce que c'est connecté avec le reste des films Marvel? Into the Spider-Verse est à 0% un film Marvel, c'est un film entièrement produit, développé, écrit, réalisé par les gens payés par Sony. Marvel a absolument rien à voir là-dedans, ils ont licencié Spider-Man il y a très longtemps à Sony, et Sony continue de faire ce qu'il veut dans l'animation avec le personnage. La seule exception à la règle, c'est le personnage de Spider-Man et éventuellement d'autres s'ils décident de les intégrer comme Mysterio par exemple, ou le Vulture, dans une franchise qui est du coup gérée en binôme entre Marvel Studios et Sony. Mais Into the Spider-Verse, pour le coup, a rien à voir avec Marvel. Marvel a
il me semble juste qu'ils sont crédités à la production au niveau Marvel Entertainment, mais ils ont
oui, mais voilà, c'est Marvel Entertainment. C'est Marvel Entertainment, c'est pas Marvel Studios, du coup. C'est encore une fois une autre boîte.
C'est le seul truc qu'ils ont dû faire, c'est un peu de fric. Mm-hmm. Et on récupérera la recette que ça nous générera pour nous derrière.
Donc voilà, on voulait mettre un peu à plat tout ça. Donc, d'un côté, on est un peu déçu d'avoir ce trailer de Spider-Man qui gâche un peu la fête, on va dire. Et puis de l'autre côté, rappeler que tout ce qui se passe chez Sony et uniquement chez Sony, c'est-à-dire Venom et puis les projets qui sont en chantier, comme le a priori Sinister Six qui est de nouveau a priori d'actualité, le Spider-Verse et tout ça, ce sont des produits 100% Sony qui sont basés sur une licence qui a été acquise, comme disait Fox tout à l'heure, il y a une vingtaine d'années, pour une bouchée de pain, et comme c'était le cas pour Spider-Man avant qu'il n'y ait cette coproduction entre les deux studios. Donc voilà, ça me paraissait important de remettre tout ça. Le mois prochain on parlera de la Fox et ça va être encore plus sympa. On va passer tout de suite à la dernière rubrique de notre podcast, au courrier.
Parce qu'au moins Sony font des bons films à aller voir quand même, parce que Spider-Verse, foncez le voir.
Ouais, c'est très bien Spider-Verse.
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way.
Alors le courrier va aller très vite parce qu'on a déjà répondu à la majeure partie de vos questions. Donc comme je le signalais tout à l'heure, plein de gens, dont Terry, Laurent Sauzet, Bastien CH, enfin tous ces gens-là nous ont demandé sur Twitter de plus ou moins de la même manière. Ça fait pas un peu bizarre de voir Spider-Man en vie alors qu'actuellement pour nous il est mort dans le dernier Avengers. N'aurait-il pas mieux valu attendre la sortie du prochain pour balancer le trailer? Voilà, on vient d'y répondre. On pense qu'effectivement c'est une erreur de communication de la part de Sony. Mais Sony s'en bat un peu les steaks parce que c'est pas leur problème si Endgame est déforcé, même si je pense qu'il y a dû y avoir quelques discussions un petit peu houleuses entre Amy Pascal et Kevin Feige. On sentait déjà qu'il y avait un petit peu de tension au moment où ils ont annoncé Homecoming, surtout au moment où ils ont annoncé Venom. Je pense que ça n'a pas dû arranger les affaires. Bref, donc voilà, on a répondu à vos nombreuses questions sur Twitter qui allaient dans ce sens-là. Je voulais quand même citer une deuxième question sur Twitter qui s'adresse plus particulièrement à Fox, qui nous vient de Geeks, j'espère que je prononce bien Geeks ou Geeks, sur Twitter, qui nous demande comment pourrait être introduit MODOK dans le MCU. C'est une très bonne question.
Je le vois très simplement, le meilleur moyen aurait été de l'introduire, parce qu'on sait toujours pas si Tony Stark survivra, mais le meilleur moyen serait de l'introduire dans les réminiscences d'AIM post Iron Man 3, puisque après Iron Man 3, AIM a pris quand même un sérieux coup dans l'aile. Mm-hmm. Mais l'organisation existe peut-être toujours, c'était peut-être qu'une des branches d'AIM justement, et introduire un scientifique, un des scientifiques qui récupère, je sais pas, par exemple du matos Chitauri, encore une fois du matos extraterrestre ou du matos Skrull ou du matos Kree pour pouvoir faire des expériences génétiques, et à ce moment-là il se transforme en MODOK. Après ça peut être un scientifique, je le verrais peut-être pas aussi massif parce que c'est quand même assez dégueulasse, hein. Les transformations 3D qu'il y a eu pour faire un MODOK réel, c'est quand même assez dégueulasse, hein.
Ouais, il y en a eu deux qui étaient pas mal en fait, mais faut le voir animé, ça c'est un
c'est vrai,
problème.
Vous le verrez sur la page de l'émission, vous verrez qu'un Mofasque c'est quand même vachement bien. Mais je verrai toujours une tête, mais peut-être même juste une tête, c'est-à-dire une tête flottante, peut-être plus petit format, mais une tête flottante ultra vénère et ultra psychopathe, avec à la place des bras et des jambes des tentacules comme il en a eu à une époque, c'est-à-dire qu'à la place des bras et des jambes il a des espèces de câbles voilà, tout à fait, à la Doc Ock, ouais. ça pourrait être pas mal.
Thomas, une idée toi de comment on pourrait l'introduire dans le MCU?
Je suis juste étonné que Fox n'ait pas répondu via Agent of S.H.I.E.L.D. C'est la première chose.
Va te faire mettre.
Mais non, introduire MODOK, c'est un perso quand même. Le seul truc qu'il lui faudra un peu, c'est une organisation scientifique où tu peux faire apparaître le personnage. Mais à part ça,
moi je me disais,
j'ai jamais réfléchi.
Moi je me disais via le côté cosmique en fait, hein, parce que le côté cosmique justement pourrait légitimer le côté un peu over the top du personnage, une espèce de grosse tête flottante. À partir du moment où tu utilises, je sais pas, une porte d'entrée cosmique via Guardians of the Galaxy par exemple, où tu réécris un peu le personnage, du coup, t'en fais un scientifique aussi, mais t'en fais Un scientifique terrestre qui aurait par exemple été capturé par des Kree, qui aurait fait des expériences sur lui et qui l'aurait transformé dans cette entité qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de MODOK. Enfin, je me dis qu'il y a des possibilités plus peut-être du côté cosmique de faire passer en fait la pilule aussi, parce que c'est vrai qu'un le côté mutation, on l'avait déjà vu dans le premier Hulk avec le leader, on sentait qu'il tâtait un peu le terrain de ce côté-là sur des choses un petit peu borderline, enfin un petit peu difficile à adapter. MODOK, c'est vraiment pour le coup très très difficile. Et plutôt que d'essayer d'aller vers une interprétation à la Arnim Zola, donc quelque chose d'un peu symbolique et plus ancré dans la réalité, moi je verrais bien carrément le personnage introduit via la voie cosmique, quoi, et via une race extraterrestre quelconque qui aurait fait des expériences.
Il pourrait introduire les infinicides, hein, tout simplement, plutôt
que
d'en
faire
les
extraterrestres
futur, les faire venir d'une autre planète, et puis voilà, quoi.
Surenchère, on lui donne l'opportunité d'avoir
un MODOK qui en veut le MODOK.
Ah non, j'en veux pas mille, on pourrait dire que par exemple c'est le dernier des infinicides.
Pour
une raison XY, c'est un ça pourrait être totalement un criminel, puisque le Xandar a été défoncé, un criminel détruit qui s'est libéré de sa prison pendant la destruction de Xandar parce qu'il a génocidé toute sa planète pour être le dernier des MODOK.
Le Highlander des MODOK.
Exactement.
Qui sait, peut-être qu'on va découvrir qu'il est dans le Quantum Realm en fait.
Bon, voilà, plus grosse salle du tout
l'univers. J'espère qu'on a répondu à ta question, Gwix. En tout cas, on est curieux de savoir comment toi tu l'introduirais dans le MCU. Tu peux soit nous en parler sur Twitter ou venir nous en parler sur le thread Geekzone. Et c'est la fin de ce 54e épisode des Clairvoyants. Et c'est la fin, donc, comme je disais, de ce 54e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous aura fait un peu marrer avec MODOK et qu'on vous en aura appris un peu sur le personnage, qu'on aura fait le tour du trailer de Far From Home. Si vous pensez qu'on a loupé des trucs, n'hésitez pas à nous le faire savoir encore une fois sur Twitter ou sur le thread dédié sur geekzone.fr. On vous rappelle qu'il y a des dossiers Marvel Cinematic Universe sur geekzone.fr, qu'on a aussi un Patreon si vous voulez nous soutenir et financer un peu les podcasts. C'est patreon.com/geekzonefr, et puis sinon il y a toujours un bouquin qui commence un peu à dater sur le Marvel Cinematic Universe qui s'arrête à Spider-Man Homecoming. On bosse actuellement, si tout va bien, sur une suite. J'espère en tout cas que ça va se concrétiser. En tout cas, merci Fox et merci Archeon pour votre participation.
Merci messieurs.
Mais de rien.
Et puis on se retrouve le mois prochain. On fera un focus sur quoi on a dit le mois prochain?
Captain Marvel,
ouais. Évidemment, puisque le film sort donc début mars, et avec un peu de chance on pourra le voir un peu en avant-première. En tout cas j'espère, on vous tient.
On passe sur le chat de Carl Danvers, comme on l'a dit.
On en parlera de Chewie, qui s'appelle plus Chewie en fait. Il s'appelle comment dans le film déjà?
Goose,
c'est ça. Le petit clin d'œil à Top Gun, évidemment. Bref, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants. Et d'ici là, bon film Marvel. Ciao.
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 Podcast signé Faskill. Faskill.com.
Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.